Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Nœud Lunaire, l'émission qui vous propose une visite des musiques expérimentales et bizarres sur Radio Vassivière. Ce soir, nous sommes en compagnie d'Andy Bolus, alias Evil Moisture, spécialiste des cut-up, noise et des instruments homemade depuis maintenant plus de 25 ans. Avant de parler de son univers peuplé de textures dégoulinantes et de collages de bandes de bidouillage électronique, je vous propose de l'écouter live des studios de la radio à Royères de Vassivière. On se retrouvera juste après pour une interview dans une petite trentaine de minutes, quelque chose comme ça. Et là, tout de suite, c'est Evil Moisture live. Thank you.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Nœud Lunaire sur Radio Vassivière et nous sommes en compagnie ce soir d'Andy Bolus qui est dans les studios de Radio Vassivière. Andy Bolus, connu aussi sous le nom de Evil Moisture, qui vient de jouer live pendant une vingtaine de minutes. Salut Andy.
Salut.
Ça va?
Ça va très bien.
Hop. Oui. Je vais checker un peu ta voix, te monter un petit peu. Voilà, c'est très bien. Alors, on va parler un peu de toi.
Oui, ok. Mi.
Ouais, okay. Voilà, oui. toi. Et du coup, ouais, ça fait maintenant plus de 25 ans que tu fais des cut-up, de la noise, des peintures, des dessins, tu fais aussi des films. Alors, d'où t'es venue cette envie d'abord de faire de la musique?
La musique, quelle question. Je sais pas, je pense que ça vient de l'idée d'être différent que tout le monde et d'essayer de faire quelque chose de différent avec un son différent que les autres pour être original. Je sais pas, quand j'ai grandi, c'était une vertu d'être original et différent et individu. Et maintenant, tout le monde suit la même, suit chacun et. C'est un peu dommage qu'on fait comme les autres, c'est une sorte de vertu aujourd'hui, je trouve ça un peu triste.
Bon. Et donc voilà, alors tu me disais que tu avais commencé d'abord par faire de la guitare et ensuite t'en as eu un peu marre de la guitare, des choses un peu.
Oui, petit à petit j'étais plus en plus intéressé par le pick-up dans la guitare et de mettre les objets, les moteurs, les choses comme ça sur les pick-up. Et d'amplifier ça et j'ai acheté un écho à bande et j'ai découvert que tu peux couvrir la tête d'effacement et ça fait les boucles en permanence. Et j'ai acheté une 4 pistes et j'ai commencé à enregistrer des morceaux qu'avec les boucles pris de la collection de merde de mon père. J'ai allé dans tous ces disques pour trouver des. Il y a juste la musique hawaïenne ou la musique de Mexique pour les touristes ou les trucs comme ça, mais j'essaie de sort of détruire ça un peu dans mon façon.
Voilà, du coup, est-ce que tu étais inspiré par des musiciens au début où justement tu te dis ah.
Ah oui, quand j'avais quoi, 13 ans, 14 ans à l'école, mon pote, un de mes meilleurs potes, son oncle a travaillé pour Virgin Records. Et son oncle régulièrement lui a donné les disques que Virgin a sortis. Et je me rappelle que mon pote, il m'avait donné tous les albums de Faust. Ouais. Il y avait notamment Faust Tapes que Virgin a sorti vraiment pas cher, genre 99p. Mon pote m'avait donné ça parce que c'était trop bizarre. Il a dit c'est trop bizarre. Alors bientôt j'avais une réputation pour donner à Andy si c'est ouais. quelque chose un peu c'est étrange bizarre. Ou il comprend pas. Si il y avait il y a pas vraiment quelque chose à comprendre, je pense. Mais eux, ils ont pensé qu'il y avait, il manquait quelque chose de compréhension. Alors ils m'ont donné. Et j'ai toujours cette réputation là. Alors si quelqu'un veut me donner des trucs un peu bizarres, c'est très bienvenu.
Voilà. Donc vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Vassivière, n'hésitez pas à le contacter si vous avez des trucs bizarres. Et donc il y a quand même. Un matériau qui est très présent dans ta musique, c'est les bandes. Comment ça se fait? C'est quoi ton rapport avec la bande? D'où ça vient? Donc tu parlais d'un Revox, mais y a quand même plus, c'est au-delà d'un Revox maintenant même.
Oui, oui, il y a les Walkman, les lecteurs de cassettes un peu sort of mauvaise qualité, on peut dire qu'on peut trouver dans les brocantes. J'aime bien l'idée d'une sorte de musique concrète. Même académique, ou voir si les académiques vont tolérer une musique concrète, mais faite avec les dictaphones et les choses vraiment en panne. Pierre Schaeffer avait dit il y a longtemps que tout est la musique, blablabla, mais est-ce qu'il va vraiment accepter ça si on fait des choses vraiment pourries, exprès? Je ne sais pas. Mais il y a bien sûr le problème avec. Moi, j'ai toujours fait la musique de collage. Et on ne peut pas faire ça en direct, on ne peut pas couper la bande en direct. Ça prend, si on est très, très doué et rapide, peut-être c'est possible, mais, oui. mais il faut trouver une solution pour ça. Alors j'ai fabriqué des machines qui font des sortes de cutting pour synchroniser les machines ensemble dans un sens un peu primitif, mais oui.
Donc voilà, aussi tu bricoles pas mal, tu fabriques quasiment toutes tes machines. Voilà, ça, pareil, ça, tu as découvert ça comment?
Je sais pas, quand j'allais au Beaux-Arts, c'était un peu. Pour tous les musiciens, il y a ça un peu pour chez tous les musiciens, je pense, que si ton ampli, ton bon pan, tu n'as pas des sous pour amener au magasin, alors ouais. tu apprends comment réparer.
Les musiciens sont pauvres.
Oui, ouais, apparemment, oui. Mais c'est ça à la base, c'est rien de spécial, mais j'ai beaucoup aimé l'idée de. Peut-être que c'est une idée qui vient de punk, ou une mal compréhension de la musique punk. Il parle beaucoup d'individualité, liberté d'expression, mais en fait, ils font le même genre de musique, super conservatoire. Ils n'ont pas du tout tolérant des autres formes de musique. Et mon idée de punk, c'est plutôt que dans un univers parallèle, il y a des groupes de punk qui sont chacun complètement différents, même un genre différent de l'autre, et qu'ils sont vraiment conscients de ne pas faire quelque chose comme un autre groupe. Et moi, je trouve ça bien si tout le monde essaie de faire un peu comme ça, et on va arrêter avec toutes les choses génériques qu'on a entendues des millions de fois. Et c'est ça, c'est juste ça. Ça nécessite fabrication des choses soi-même.
Ça nécessite d'y mettre les mains.
Oui, et c'est juste avoir envie de synchroniser des choses, par exemple. Tu utilises ce que tu as à côté, tu improvises avec les matériaux que tu as dans ton atelier.
Et du coup, souvent quand on parle de musique expérimentale, on pense aussi au synthétiseur. Et toi, tu ne fais pas spécialement de la musique de synthétiseur?
Il y a un élément. Récemment, j'ai commencé à utiliser un Nord Modular que vous avez peut-être entendu. J'aime bien l'idée de mélanger les sons très, très clean ou très numériques avec les sons très, très low-tech aussi. Non, pas vraiment le synthesis pur. Moi, j'aime beaucoup. Il y a les vieilles musique concrète fait qu'avec les sortes de machines d'équipement de test, juste les oscillateurs, les tons très purs. Et après, ils ont transformé ça avec la bande. Mais pour moi, I don't know, il y a un côté un peu acoustique, c'est important, je trouve aussi.
Et donc, tu parlais de collages, que tu pouvais pas faire tes collages en live, mais quand tu fais tes collages chez toi, tu fais comment? Ou en studio?
Avant, c'était tout fait chez Revox, couper la bande avec un rasoir et mettre du scotch. Mais ça prend beaucoup de temps et il y a longtemps, j'ai eu mon premier ordinateur et j'ai découvert que tu peux faire 1000 fois plus vite la même ouais. chose. Bon, c'est pas exactement
c'est
la même
pas
chose.
Pas tout à fait pareil. Ouais.
Non, pas exactement.
Moins d'aléatoire peut-être.
Oui, c'est quand j'ai eu mon ordinateur au début, j'ai pensé, oh wow, tu peux couper les minuscules morceaux ouais. et j'ai fait des collages qui durent une seconde et qui a pris 2 jours de faire. Et en fait, tu n'entends pas tout ça. Et après, à un moment, tu recules un peu et moi j'essaie de faire dans le même sens que je vais couper la bande, comme c'est important et comme ça va prendre un peu de temps et je vais jeter quelque chose aussi, alors j'hésite, je réfléchis avant de couper. Je fais un peu approximatif aussi des fois pour sort of ressembler quelque chose à des tâches de bande. Mais, yeah.
Et donc maintenant tu fais plus trop directement sur bande?
Souvent je travaille avec je copie chez bande et ouais. je travaille avec la bande et j'ai pas mal de magnétophones j'ai des trucs un peu spéciaux pour enregistrer les tremblements de terre et les insectes et les choses comme ça qui vont très très haute vitesse et très très basse vitesse une machine fabriquée par Agilent Hewlett-Packard qui est mon père encore mais qui pèse avec 50 kilos. J'en ai deux, en fait. Un pour les pièces et un autre pour... Mais, yeah. C'est les machines pas vraiment faites pour la musique, mais ça veut dire qu'il y a toutes les fréquences. Normalement, les machines faites pour la musique, ça coupe à un certain point...
Un point bas, un point haut.
Oui, voilà.
Et là, il y a beaucoup plus d'autres possibilités.
Oui, ouais. oui. Et tu peux faire des choses comme enregistrer à l'envers ou jusqu'à n'importe quel moment, tu peux inverser la bande ou tu peux changer la vitesse. Il y a plein de choses un peu spéciales à cette machine. Ouais.
Et du coup, tu t'es un peu trompé en disant magnétoscope et justement, tu fais aussi des films. Et est-ce que tu procèdes comme pour la musique quand tu fais des films?
Oui, c'est pas loin, c'est la même partie de le cerveau, je pense. C'est, oui.
Et ça ressemble à quoi tes films? Voilà, comment tu pourrais décrire ça pour les auditeurs et auditrices pour qu'ils essayent de... Moi, je vais rien dire, mais...
j'aime bien les choses qui sont pas vraiment reconnaissables, mais on... Well, par exemple, enlever tous les aspects d'une image que nous permet de le reconnaître et jusqu'à quel moment ça reste toujours reconnaissable à cause d'une texture ou quelque chose comme ça. Dans la musique, je suis beaucoup intéressé par ça, dans le collage. J'aime pas trop le sampling où tu remarques tout de suite que c'est AC/DC ou blablabla. J'aime bien travailler peut-être avec AC/DC, mais enlever toutes les références à AC/DC jusqu'à ce que les gens se sentent un peu familiers. Mais
ils savent pas ce que
c'est. Ils savent pas pourquoi. Mais pareil dans la vidéo, j'aime bien faire les choses qui ressemblent, pas ressemblent à un visage, mais ressemblent à un corps humain, mais on ne sait pas exactement quel matériau c'est fait. C'est difficile d'écrire, mais je fais des autres choses juste avec les effets spéciaux, like les DVD que tu peux acheter avec juste les effets de fumée. Et je prends les scènes d'un catalogue américain sur Laserdisc pour un department store, qui vendent les barbecues
ou les tracteurs tondeuses.
Je remplis ça avec du fumée comme la viande est en train de brûler. Un autre avec du sang, une centaine de, comment dire, splats.
De jets de sang, ouais, un peu partout.
Je mets ça sur une scène de Dynasty ou quelque chose.
Et si toi, ça te parle si on dit que c'est un peu psychédélique?
Psychédélique dans le bon sens, oui, je suis d'accord. Pas psychédélique comme Fractals ou comme, ouais. comme l'affiche de Grateful Dead ou quelque chose comme
ouais,
ça.
Ouais,
mais psychédélique dans un... Oui. C'est, j'aime bien essayer de transformer la perception de gens qui regardent. Oui, dans ce sens-là, c'est très psychédélique, oui.
Et du coup, tes films comme ta musique sont pas mal inspirés et influencés par alors un cinéma qu'on pourrait appeler Z, qu'on pourrait appeler B, qu'on pourrait appeler tout un tas de noms qui sont des fois appelés des nanars. Toi, ça, c'est une grosse influence.
Oui. Un ami à moi m'avait dit que il a trouvé. C'est une expression par quelqu'un d'autre, je sais pas qui, mais il a dit que le trésor, c'est dans la poussière ou quelque chose comme ça. C'est vraiment les choses vers la sorte de frontière de le tolérable et le légal et tout ça qui sont intéressants finalement. Moi, je pense, toutes les industries comme la pornographie, ils vendent la pornographie en train de jouer avec est-ce que c'est légal, est-ce que c'est illégal, est-ce que c'est interdit ou pas. Je parle que de les. You know, c'est juste une sorte de trucage parce que finalement, il te donne rien. Tu vois, et la censure, c'est super important dans tout ça. J'aime beaucoup la censure parce que j'ai des magazines de cul des années 80 censurés par la douane japonaise à la main avec une sorte de papier vert. Comme un maniaque, tu peux imaginer un douanier en train de transpirer dans une petite cellule, il fait ça tous les jours, il fait même les petites pubs pour le téléphone sexe et des choses comme ça. Et je peux parler beaucoup de la censure et comment c'est important pour plein de choses, même dans le mainstream. C'est jouer avec, c'est utilisé beaucoup pour... C'est important pour le capitalisme, je veux dire.
Et tu fais des dessins aussi et des peintures, c'est pareil, tu procèdes comme pour la musique, comme pour le film, c'est...
Oui, c'est un peu traditionnel la peinture, mais techniquement, mais à la base je dis que je suis peintre et je reste toujours peintre vraiment. Le reste ça devient de la peinture et le collage. C'est pour ça que je parle de ma musique dans un peut-être un sens très visuel, parce que pour moi c'est un peu la même chose. Et la vidéo, c'est bien sûr, c'est idéal parce qu'il y a de l'image et le son et il y a tout ce que j'aime dans le même truc. Oui. Et il n'y a pas de. Tu ne vois pas les gens quand tu mets ton film.
Ouais.
Tu n'es pas obligé d'être présent pour chaque fois. J'aime pas trop jouer en live.
Voilà, mais c'est bien la radio parce que du coup les gens t'entendent, mais ils ne voient pas.
S'il y a des gens
qui nous écoutent. Et peut-être avant de continuer l'interview, on pourrait écouter un petit peu, tu pourrais nous faire écouter un petit peu de Evin Meister.
Est-ce que je peux mettre un nouveau truc
Bien sûr, oui, mais okay. Ce que tu veux, c'est même super si tu mets un nouveau truc.
Ok, on était en train d'écouter. C'est pas fini, mais c'est un nouveau album qui va sortir chez... lui, il sait pas encore parce qu'il va être surpris que j'ai fini le truc, mais c'est chez Erratum, le label de Joachim Montesuisse, qui est un prof de son à Strasbourg, où j'avais bossé un peu aussi. Je l'ai trouvé...
Voilà, donc c'est en avant-première. S'il nous écoute, il va trouver ça super.
Oui. Mais il va pas écouter.
Ouais, il va pas écouter, c'est sûr. Allez, on écoute un peu Evin Meister, on se retrouve après. Et vous êtes toujours à l'écoute de Nœud Lunaire sur Radio Vassivière 88.6 et 92.3 FM. Et nous sommes toujours en compagnie d'Andy Bolus dans cette émission.
Bonsoir.
Et donc voilà, tu pratiques le bending. Alors bon, je ne sais pas trop comment l'appeler, tu n'aimes pas trop le terme bending, le bidouillage un peu électronique.
Oui, oui.
Et
oui.
Du coup, tu donnes des cours, au cours d'atelier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là, voilà, que tu étais là ce week-end sur le plateau de Mille Vaches.
Oui.
Alors déjà, le bending, toi, tu n'aimes pas trop. Et ces ateliers, c'est quoi? Enfin, ça fait deux questions.
Bending, c'est juste le terme, parce qu'en anglais, c'est un peu bizarre. C'est comme...
C'est d'ordre.
C'est un peu... Non, c'est un peu homosexuel.
Ah ouais.
Ça veut dire un peu bent. Bent, c'est sort of argot pour...
Ah ouais.
Mais c'est pas grave. Mais bending, il y a un ami Twig Harper de Nautical Almanac aux États-Unis qui l'appelle blending. Ça veut dire mélanger les circuits. Et ça, c'est sort of la prochaine étape après. Circuit bending, ça veut dire sort of, prendre les jouets, modifier les jouets pour les enfants, les jouets électroniques.
Ouais.
Sans vraiment connaître l'électronique, la theory et tout ça.
Ouais.
Juste avec tes doigts, explorer, trouver les points sur le circuit où ça change quelque chose et après ajouter des composants. Et après ça, il faut apprendre un peu l'électronique si tu veux avancer un peu. Bon, on a fait 3 jours de ça et c'était très très bien passé, je trouve. C'était...
Ouais. Alors Renoué, du coup, c'était à Gensiou et voilà, tous ceux qui sont venus, j'y étais aussi, ont pu faire un ghost detector, voilà.
Oui, détecteur de fantômes, oui. Si on croit pas en fantômes, on peut dire que c'est un détecteur de bruit,
ouais.
C'est des ondes électromagnétiques qui sont autour de tout le monde, mais normalement invisibles, inécoutables, et c'est juste une sorte d'amplificateur de ça... avec une antenne et un circuit de 3 composants.
Ouais. Ouais. C'est très simple à faire et si ça vous branche, n'hésitez pas à nous contacter à Nœud Lunaire, c'est neudlunaire@radiovassivière.com ou à contacter directement Andy pour l'inviter à faire un atelier.
Oui, oui, okay.
Pourquoi pas.
Il y a un côté un peu écolo avec ça, ouais. Aussi, l'idée qu'il y a du pollution partout. Moi je suis pour l'idée aussi que...
Un peu de recyclage.
On n'entend pas tous les bruits qui sont tenus. Et...
Après, on devient parano parce qu'on en...
Oui,
tout,
on va mettre un casque en aluminium, aluminium foil.
Et on va vivre dans les bois.
Oui.
Ouais, du coup, on revient un peu sur ta musique, mais plutôt un peu la production. Parce que du coup, t'as enregistré plein de choses qui ont été éditées par plein de labels.
Oui.
On peut citer des labels un peu connus comme Pure, édité par RRR aux États-Unis, Deco, plutôt à Paris, autour de Sister Yodine, qui avant était Discom.
Oui.
Il y a Blossoming Noise ou Ideal Recording en Suède.
Oui.
Mais depuis le début, t'as quand même édité toi-même... d'abord des cassettes, puis des CDR avec plusieurs labels. Il y avait E-Prod, School of Meat Cutting et maintenant Royal Sperm.
Oui, oui.
Tu penses que c'est mieux l'autoproduction ou tu as fait ça pour pouvoir aussi sortir les choses comme tu voulais, avec les pochettes que tu voulais
Au début, c'était spécialement, c'était un moyen de contacter les autres gens et faire des échanges avec les autres labels. Et j'aimais bien l'idée de... Si tu sors sur un autre label, tu gagnes normalement juste des exemplaires et tu donnes à tes amis et tu vends quelques-uns et après c'est fini. Mais si tu fais toi-même, tu peux juste continuer, tu peux faire combien, illimité comme exemplaire. Et je sais pas, j'aime bien avoir un peu de contrôle sur le jacket et les choses comme ça. Je peux juste sortir les choses. C'est pas une question de sortir. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a les gens qui veulent écouter ça? Je peux juste sortir les choses et sort of créer le marché comme ça.
Ouais. Et du coup, ça vient un peu du punk. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être cette influence-là aussi.
C'est une bonne excuse pour moi de peindre, de faire du collage, des choses comme ça pour faire les jackets. De faire une sorte d'expo que je sais que 50 ou 100 personnes va voir et ils peuvent acheter pas cher, c'est pas comme acheter une toile ou quelque chose comme ça.
Ouais.
J'ai envie de faire plein de choses, alors j'ai beaucoup d'enregistrements que j'ai j'ai envie de sauter comme... J'habitais dans un squat à Paris pendant 8 ans et j'avais un microphone caché dans la salle de concert qui, avec un câble hyper long qui allait chez moi dans un magnétophone. Je pouvais juste appuyer sur pause pour enregistrer les balances des groupes de punk et des choses comme ça. Je ne savais pas les noms des groupes des fois, juste les disputes entre les gens ou quelqu'un en train de démonter les drums à la fin. J'utilisais ces enregistrements pour plein de choses.
Donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir les sortir parce que peut-être que bon, ça intéresse pas tout le monde ou voilà, toi tu le fais et tu te poses pas la question, c'est ça qui est...
Non, mais c'est pas fait pour tout le monde.
Ouais, c'est pas fait pour tout le monde, ça, c'est sûr.
Mais c'est, yeah, dans un sens, c'est aussi une sorte de record que où j'étais à l'époque et, you know, à un moment, c'est comme un journal un peu aussi. Ça me permet aussi, spécialement avec mon nouveau label, l'idée de me libérer un peu d'être dans un groupe ou connu pour une chose ou un nom.
Ouais.
Je peux juste changer, inventer un nouveau nom de groupe et faire quelque chose un peu différent. Je parle pas d'un genre complètement différent, mais ça enlève le... Je suis un peu connu pour faire des collages très très courts et très un peu cartoon,
un peu cartoonesque, ouais.
et aussi j'ai fait des lives pendant 2 ans juste avec la viande et les électrodes qui va dans la viande crue pour changer la fréquence des oscillateurs et finalement les gens ne se rappellent pas de la musique, ils se rappellent juste de
la viande.
Mais bon, j'ai besoin de me libérer et j'aime bien l'idée de changer le fond pour quelque chose, pas changer le nom, donner une fausse impression que c'est un groupe de Norvège ou quelque chose, parce que ça change complètement la perception.
Ça change, voilà, la perception.
Ouais.
Et du coup, tu as un site, Royal Sperm.
Oui.
On peut donner l'adresse, comme ça, si les gens veulent aller visiter.
C'est evilmoisture.free.fr/RS.
Ok, et du coup, c'est pareil pour aller voir ton site.
Oui, si vous allez sur evilmoisture.free.fr, vous voyez les liens. Il y a aussi une radio qui, je ne sais pas si ça fonctionne toujours, mais qui s'appelle Imperial Sperm. Et ça, c'est une sorte de playlist qui tourne tout le temps. Il y a aussi mon site schoolofmeatcutting.free.fr aussi. J'ai beaucoup d'espace chez Free, je ne sais pas pourquoi.
Parce que c'est Free.
Oui, c'était gratuit. Tu t'inscris pour 56K modem et tu dis que tu n'as pas besoin de le Free Box et tout ça, et te donne 2 gigas d'espace. Il ne faut pas faire le pub. Il ne faut pas réveiller tout le monde, comme il dit. Parce que...
Bon, ça va, nos lunaires, les gens, il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute.
Non, mais il y a aussi schoolofmeatcutting.free.fr. Ça, c'est plutôt mes peintures, mes collages, les captures d'écran de mes vidéos. Il y a une page avec les liens pour YouTube, avec des clips de mes vidéos et des choses comme ça. Il y a aussi, sur evilmoisture.free.fr, il y a des pages sur le circuit bending,
voilà,
des machines que j'ai fabriquées.
C'est ce que j'allais dire. Avec des plans et avec des effets, donc des delays ou ce genre de choses, des échos avec ta touche, disons visuelle, avec des trucs un peu latex et tout ça.
Oui, un peu. Yeah,
Tête de mort, un peu influence film.
Ou les produits Halloween.
Ou les produits Halloween.
Oui.
Et on refait un petit tour dans le passé. Du coup, t'as collaboré avec plein de gens, notamment t'avais un projet Olympic Cheatman avec tu peux nous en parler. C'était au début, ça. C'était en même temps qu'Evil Moisture.
Ça, c'était non, j'avais déjà. C'était pas long après, mais j'avais déjà fait un live, peut-être deux. C'était sort of début 90, on a commencé Olympic Shipman. C'est avec Mark Durgan, qui joue sous son propre nom maintenant, je pense, mais il est connu un peu de l'époque de Broken Flag et le label de Gary Mundy de Ramley, sous le nom Putrefire. Et il avait un label qui s'appelait Birthbiter, ça existe toujours, je pense. Et il a fait distribution aussi pour beaucoup de disques de noise, autre label de noise aussi. Il a peut-être toujours ça dans un carton sur son lit. Ouais.
faut lui demander alors.
Oui, oui.
Du stock.
Les vieux Alchemy Records, ouais. Des choses comme ça. Et c'était dans ma tête, je ne sais pas pour Marc, je pense que c'était pareil. Pour moi, c'était vraiment un pur harsh noise band. C'était ouais. Vraiment pas comme Evil Moisture. C'était vraiment, OK, on va jouer pour 2 heures, on va mettre beaucoup de matériel sur scène, et on va avoir du scrap, du metal, ouais. Des objets comme ça, you know. Vraiment, sort of old, même à l'époque, même dans les années 90, on a pensé comme old school, ouais. Harsh noise.
Old school, ouais.
Et il y a des vidéos sur YouTube, en fait, des deux premiers lives. Vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Il y a une AKS, synthé.
Ouais, toi, tu faisais du synthé.
Oui, mais j'avais utilisé juste pour le reverb dedans, je pense. Mm.
Et donc, une autre collaboration notable en même temps. Bon, à chaque fois, c'est toujours intéressant. Mais Anna Tarrasch, qui est un groupe assez connu dans la musique noise japonaise. Et du coup, ça s'est passé comment, ça, cette collaboration?
J'étais super fan de... Toujours, je suis super fan de Anna Tarrasch, les cassettes et les trois premiers disques. Je trouve ça le meilleur... musique concrète dans le monde, vraiment, spécialement le deuxième, c'est du tape collage, mais sublime, quoi. J'avais envoyé une cassette, mon premier cassette Evil Moisture, qui s'appelle Yearn Flowers, j'ai envoyé ça à I, j'ai trouvé son adresse quelque part, et pas imaginé qu'il va répondre, mais il a répondu. Finalement, on a rencontré, j'ai pas mal d'amis au Japon, il est venu pour jouer avec les Boredoms, et ils nous ont invités d'ouvrir pour Boredoms, ça c'est en 93, pardon. Et il est venu, et il y avait un concert de White House quelques jours avant, et lui, on était là, on a enregistré un peu pour notre collaboration pendant le concert de White House, il a gueulé dans un dictaphone. Et il m'avait envoyé une cassette de matériel à utiliser. Mais pour être honnête, c'est beaucoup de mon travail dedans parce que j'étais super fan de le truc. Alors ouais. J'ai bossé. J'ai fait beaucoup de versions différentes avant que ça sorte. Il y a une version vinyle, aussi double vinyle, que jamais vraiment sorti, mais il y a des test pressings. Et...
Un peu collector.
Un peu collector, oui. Oui.
Et Macroninfa aussi, voilà, bon, on va pas citer tout le monde, mais Macroninfa, ça s'est passé comment?
Macroninfa, j'avais juste, pareil, c'était un peu avant l'internet, c'était mieux pour se réveiller le matin pour regarder qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres.
Boîte aux lettres.
Oui. J'ai vraiment, les gens que j'aimais, j'ai essayé d'être en contact pour envoyer des cassettes. Et ils ont répondu. Et c'était aussi via Banana Fish Magazine de San Francisco que j'ai découvert beaucoup, beaucoup de gens à cause de ce magazine. Et pas long après la collaboration avec Macroninfa a sorti, il y avait une interview dans Banana Fish avec Macroninfa qui a fait tout le monde détester Macroninfa parce que c'était assez ridicule comme interview. Ça les... présent comme vraiment les sortes de junkies KKK American asshole je sais pas. Et j'étais très content en fait que ça sorti juste après la collaboration.
Après la collaboration.
Ça c'est sur Pure RRR encore. Je suis toujours très fier de cette collaboration. Il y a des autres cassettes que j'ai jamais écoutées, mais j'imagine que c'est les matériaux que j'avais envoyés pour...
Qui n'ont pas été retenus au CD, ouais.
Mmh, oui. Qu'ils ont sorti juste pour gagner un peu d'argent pour acheter du crack.
et voilà, bon, bah, on arrive à la dernière question.
Okay.
Et ça fait beaucoup de temps, du coup, que t'es dans la musique noise et expérimentale. Mmh. Et ça a dû pas mal changer en 20 ans. Toi, t'en penses quoi? Tu trouves ça toujours aussi intéressant? Tu trouves ça comment?
Ça a devenu un genre de musique. C'était pas comme ça avant. Avant, noise, c'était juste la section dans le disque où les choses trop bizarres, alors il a mis des choses qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est, alors il a mis dans le noise. Ouais. Maintenant, c'est vraiment un genre, tu peux faire une sorte de sitcom, une cartoon comme les Simpsons, mais avec un caractère qui écoute le noise, qui est en noir, qui communique en photocopie noir et blanc, et on va comprendre qui c'est, you know, qui n'est pas très sociable, blablabla. Bla, ouais.
Et qui aime bien les trucs noir et blanc avec un peu des références à la Seconde Guerre mondiale.
Oui, Charles Manson.
Ou Charles Manson.
Yeah. Ouais. Ouais. Et il y a vraiment les types comme ça qui fait du noise dans un sens vraiment générique, avec les mêmes pédales. Et
ouais.
Bah, ça va, c'est juste un autre genre, comme une sorte de subgenre de grindcore ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas important. Mais il y a toujours les dinosaures qui continuent. J'étais au Japon il y a 10 jours. Il y a toujours Hijo Kaiden et j'ai vu...
Toujours, ouais.
J'ai vu Astro, c'est Hiroshi Hasegawa de CCCC, groupe japonais légendaire. Et il y a toujours beaucoup de bons gens. Et il y a des nouveaux gens aussi. Beaucoup en Scandinavie, il y a beaucoup de gens intéressants en ce moment. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit j'ai tout entendu dans les années 80. Ouais. Je suis très ouvert pour les nouveaux trucs.
Tu ne dis pas c'était mieux avant, quoi.
Non, ce n'était pas mieux avant. Il n'y a pas de scène noise, il n'y avait jamais une scène noise. Ouais. Les gens qui disent qu'ils ont raté le bateau,
louper le coche, on dit aussi.
Voilà, c'est faux, il n'y avait jamais un bateau.
Ouais.
Les gens qui sont jamais sortis de la maison, tu vois, les recluses qui font de la musique très antisociale, pourquoi il y avait une scène? Ils n'avaient pas envie de sortir.
Voilà. Merci beaucoup, Andy.
De rien, mon plaisir.
Et donc voilà, on arrive à la fin de l'émission. On était en compagnie d'Andy Bolus, alias Evil Moisture. Il y avait un live en début d'émission que vous pourrez réécouter au moment des rediffusions. Donc, Nœud Lunaire est diffusé un lundi sur deux de 20h à 21h. La première émission est en direct. Et c'est rediffusé le dimanche de la même semaine à partir de minuit. Donc on se quitte. C'était super. Merci Andy d'avoir fait cette émission avec moi.
Merci.
Et à très bientôt sur les ondes de Radio Vassilière. Ciao, ciao.